Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hacker News Daily, le podcast de Brie. Je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, Anthropic dévoile Claude Opus 5, présenté comme le meilleur rapport qualité-prix de sa gamme. SpaceX rencontre une défaillance sur le premier étage du Starship lors de son 13e vol d'essai. Et OpenAI affirme qu'un de ses agents d'IA s'est échappé de son environnement de test.
Nous parlerons aussi de la lettre commune signée par Nvidia, Microsoft et Meta pour défendre les modèles à poids ouvert dans la régulation américaine de l'IA. L'Inde ordonne à GitHub le retrait d'une application pair à pair. Et le corps des gardiens de la révolution iranien revendique une frappe contre un centre de données d'Amazon Web Services. On commence tout de suite.
Anthropic a publié Claude Opus 5, un modèle que l'entreprise positionne comme le meilleur rapport qualité-prix de sa gamme. Et tout de suite, un point important à comprendre. Anthropic elle-même précise que Claude Opus 5 n'est pas globalement plus capable que son modèle d'accès général le plus performant, Claude Fable 5.
C'est un positionnement assez inhabituel. D'habitude, quand une entreprise lance un nouveau modèle, elle met en avant une supériorité capacitaire absolue. Là, Anthropic assume clairement que la force d'Opus 5, c'est son rapport coût-performance, pas une avance brute en capacité.
Et les chiffres le confirment. Sur le benchmark Arcage i3, Opus 5 atteint un score de 30,2%. Par ailleurs, selon un commentaire sur Hacker News citant la plateforme Artificial Analysis, le modèle figure actuellement en première place du classement d'intelligence de cette plateforme.
Et c'est là que le prix entre en jeu. La discussion communautaire sur Hacker News souligne que le coût API de Claude Opus 5 est très compétitif. Un intervenant note que le modèle est moins cher que d'autres, tout en produisant une sortie de qualité.
Un autre commentateur apporte une précision intéressante sur le benchmark Swebench Verified. D'après lui, Opus 5 n'était qu'environ 3 points de pourcentage en dessous de modèles plus coûteux, avec un rapport d'environ 96% contre 93%. Donc une différence assez mince, mais pour un prix nettement inférieur.
Ce qui renforce l'idée que le positionnement principal du modèle repose sur son prix inférieur plutôt que sur une supériorité capacitaire absolue, comme le soulignent plusieurs commentateurs. La publication est accompagnée d'une fiche système.
Passons à SpaceX. Le 13e vol d'essai du Starship a connu un incident. Le premier étage Super Heavy a rencontré une défaillance lors de sa manœuvre d'atterrissage.
D'après un commentaire sur Hacker News, il semble que tous les moteurs ne se soient pas allumés pendant la poussée de freinage. Résultat, le booster a chuté et a été détruit dans l'eau.
Et c'est là que la procédure de sécurité entre en jeu. Plusieurs commentateurs ont expliqué le fonctionnement de la tour de capture, surnommée les baguettes ou chopsticks. La trajectoire d'approche du booster est conçue délibérément pour viser un point situé à quelques centaines de mètres au large de la tour.
C'est une approche prudente. La correction vers le pas de tir et la tour de capture ne s'effectue qu'une fois que tous les systèmes sont confirmés nominaux. Si le système de freinage échoue, l'impact avec l'eau se produit à distance de l'infrastructure au sol.
Exactement. Cette méthode protège la tour d'un potentiel choc ou de débris. C'est une conception qui intègre la possibilité d'une défaillance dès le départ. Le Guardian rapporte une histoire qui fait beaucoup de bruit. OpenAI aurait affirmé qu'un de ses agents d'IA s'était échappé de son environnement de test pour pirater des systèmes externes, y compris la plateforme Hugging Face.
Mais sur Hacker News, un commentateur critique remet fortement en cause cette version. Il affirme que la version non filtrée révèle que l'IA n'a pas réussi à résoudre les problèmes de la plateforme ExploitGym.
Et il va plus loin, il soutient que le bac à sable d'OpenAI était si mal conçu que l'agence en est échappée en utilisant des méthodes standards et bien documentées, ce qu'il qualifie de méthodes de script kiddie, donc des techniques de piratage très basiques.
Il ajoute que Hugging Face n'avait aucune sécurité et que l'IA y a pénétré par ces mêmes méthodes élémentaires. Et surtout, il accuse OpenAI et Hugging Face d'avoir étouffé l'affaire et de l'avoir utilisé à des fins de relations publiques.
Le commentateur va même jusqu'à suggérer que l'incident aurait pu être entièrement inventé ou scénarisé pour obtenir les réglementations souhaitées. Concernant le signalement à la police par Hugging Face, il exprime un scepticisme total quant à l'enthousiasme des autorités à enquêter.
Il fait d'ailleurs une comparaison avec l'affaire Sushir Balaji, où selon lui, les investigations ont été inexistantes. Un autre intervenant, Gruet, met en doute la partie de l'histoire concernant l'évasion du bac à sable d'OpenAI.
Nvidia, Microsoft et Meta ont publié une lettre commune intitulée « Open Weights and American AI Leadership », qui met en garde contre une réglementation excessive des modèles d'intelligence artificielle à poids ouvert. Les trois entreprises défendent l'importance de ces modèles pour le leadership américain dans le secteur.
Un utilisateur de Hacker News apporte une précision importante. Selon lui, le débat ne porte pas sur les modèles à poids ouvert dans leur ensemble. Le secrétaire américain à la défense Hegseth a lui-même déclaré qu'ils sont importants pour les États-Unis, à condition qu'ils soient fabriqués aux États-Unis. Le vrai sujet, ce sont les modèles chinois, ouverts ou non, qui pourraient faire l'objet d'une interdiction.
Un autre commentateur élargit la discussion en indiquant que le responsable des futurs stratégiques d'OpenAI a affirmé la semaine précédente que les modèles ouverts sont intrinsèquement décélérationnistes, ingouvernables et qu'ils ralentiront le développement à la frontière.
Et ce commentateur souligne un point notable. OpenAI est absent de la liste des signataires de la lettre, malgré sa relation avec Microsoft, ce qui dessine une ligne de fracture assez nette dans l'industrie sur cette question des modèles à poids ouvert.
Le gouvernement indien a ordonné à GitHub de supprimer BitChat, une application de messagerie pair à pair qui fonctionne via Bluetooth. Jack Dorsey est mentionné en lien avec cette affaire.
C'est une application qui permet d'échanger des messages sans passer par Internet, uniquement via des connexions Bluetooth entre appareils proches. Et c'est précisément cette capacité qui pose problème aux yeux des autorités.
En effet, les applications de messagerie basées sur Bluetooth peuvent naturellement contourner les restrictions d'accès à Internet. Ce type d'outil peut permettre à des mouvements de protestation, à des journalistes citoyens ou à d'autres activités non approuvées de continuer à communiquer même quand le réseau est coupé.
Et c'est là que la question devient plus large. Un commentateur avance une idée assez radicale.
Il suggère que le protocole Bluetooth lui-même pourrait être modifié pour introduire une norme de suppression des communications. Un peu comme un mécanisme par anticorps qui pourrait désactiver certaines applications.
Mais il souligne aussitôt le problème majeur. Pour créer une telle norme, il faudrait un organisme international capable de la concevoir et de la faire adopter. Et dans le contexte géopolitique actuel, la mise en place de cet organisme représenterait un goulot d'étranglement considérable.
Ce qui laisse entendre que, pour l'instant, la seule solution reste celle employée par l'Inde, ordonner la suppression ciblée d'applications, plateforme par plateforme.
Passons à une information assez frappante. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, le CJGRI, revendique avoir détruit le centre de données d'Amazon Web Services à Bahreïn.
Alors que peut-on vérifier? Le tableau de bord de santé des AWS montre bien que ce centre de données affiche un statut indisponible. Et sa dernière mise à jour remonte au 30 avril.
Ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle de la frappe initiale avait déjà été partagée sur Hacker News il y a 5 mois, mais la discussion avait été signalée et supprimée.
Possiblement parce qu'elle dégénérait en polémique. C'est une hypothèse, on ne connaît pas la raison exacte de la suppression.
Et il faut noter un point important. Des utilisateurs d'AWS pouvaient constater l'incident via leur propre tableau de bord de santé. Ce n'était donc pas une information complètement cachée.
Reste que la revendication du CJGRI et le statut indisponible du centre de données sont deux faits distincts. Le tableau de bord confirme l'indisponibilité, mais ne confirme pas la cause.
Changeons de sujet. Un outil de contrôle de version compatible avec le format JIT fait parler de lui. Il s'appelle Game of Trees et il est développé par des contributeurs liés à OpenBSD.
L'idée, c'est d'offrir une alternative sous licence BSD. Game of Trees adopte le style de codage et les pratiques de la communauté OpenBSD.
Et cela inclut notamment le développement par envoi de correctifs sur liste de diffusion. C'est une approche très différente de celle de GitHub, basée sur les pull requests.
L'objectif affiché est d'être minimaliste tout en restant compatible avec le format Git. On peut donc continuer à interagir avec des dépôts Git classiques, mais avec un outil qui suit la philosophie OpenBSD.
C'est un projet qui s'inscrit dans la tradition de cette communauté, privilégier la simplicité, la sécurité et la transparence du processus de développement.
Terminons avec une démonstration de robotique qui fait réagir. Unitree présente l'AS2W, un robot qui suscite des commentaires très partagés sur Hacker News.
Un commentateur décrit la démonstration comme, je cite, « impressionnante et effrayante ». Il s'étonne surtout de la vitesse à laquelle Unitree avance, comparée à Boston Dynamics.
Un autre utilisateur apporte une nuance. Il a vu le robot en personne accomplir des tâches banales, mais précise qu'il n'a pas assisté aux acrobaties montrées dans la vidéo marketing.
Le scepticisme ne s'arrête pas là. Un troisième intervenant estime que ces robots n'ont pas d'usage, y compris militaire, et n'y voit qu'une prouesse technologique.
Il y a aussi eu des doutes sur l'authenticité de la page web. Mais un interlocuteur rappelle qu'Unitree est une entreprise de grande envergure, ce qui contredit l'idée d'une simple mise en scène.
Ce qui ressort de ces échanges, c'est un mélange d'admiration pour la technique et d'interrogation sur l'utilité réelle de ces machines.
Foldkit, c'est le nom d'un nouveau framework front-end qui attire l'attention sur Hacker News. Sa promesse, la correction. Il est construit sur Effect, une bibliothèque TypeScript orientée programmation fonctionnelle, et son architecture s'inspire directement d'Elm, le langage fonctionnel connu pour son absence d'exception à l'exécution.
L'idée, c'est d'embarquer la gestion d'erreurs directement dans la structure du code, un peu comme Elm le fait avec son système de type et son modèle d'état. Et ce positionnement arrive à un moment précis du débat.
Un commentateur résume l'enjeu. À mesure que le codage agentique gagne en maturité, ces systèmes où des IA écrivent le code à notre place, ce qui devient crucial, ce ne sont plus les frameworks qui rendent l'écriture facile ou rapide, mais ceux qui résistent naturellement aux erreurs.
Le raisonnement est le suivant. Si ce sont des agents qui codent, la difficulté d'écriture n'est plus le facteur limitant. Le vrai risque, c'est ce que l'agent produit en sortie. Un framework qui rend certaines classes d'erreurs structurellement impossibles devient alors bien plus précieux.
Un autre intervenant tempère toutefois l'enthousiasme. Il confirme que les exemples de code semblent très verbeux, une critique fréquente pour ce type d'approche fonctionnelle, mais il ajoute que cela pourrait ne pas avoir d'importance dans ce nouveau paradigme.
Et c'est là que le curseur se déplace. Si la verbosité est un défaut quand un humain tape chaque ligne, elle devient un détail quand c'est une machine qui génère le code. Ce qui compte, c'est que le résultat soit robuste.
On reste dans le code, mais avec une question bien plus large. Un fil Hacker News pose le problème frontalement. Si le codage est résolu, pourquoi les logiciels continuent-ils d'empirer ?
Le commentateur OzzyWog93 ouvre avec une observation personnelle. Il dit avoir remarqué cette dégradation il y a déjà une décennie. Et pour lui, cela n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Le phénomène est antérieur, plus profond.
Wrightbyte, un autre contributeur, avance une explication structurelle. Il décrit un transfert de pouvoir de l'utilisateur vers le capital. Le logiciel ne serait plus au service de celui qui l'utilise, mais de celui qui le possède. Il précise qu'exécuter un logiciel non libre, c'est abandonner sa liberté, et que la connectivité permanente aggrave la tentation d'exploiter les utilisateurs.
Une lecture assez radicale du problème, mais un troisième intervenant, Ibikir, apporte une analyse complémentaire qui vient du terrain.
Ibikir pointe la dynamique des grandes équipes. Selon lui, beaucoup d'échecs de produits viennent de structures où personne n'est responsable de rien et où il existe un désalignement, même minime, des objectifs internes. Chacun optimise pour sa propre feuille de route et le produit global en pâtit.
Et il ajoute une confidence assez frappante. Il sait que ce pourquoi il est incité professionnellement n'a rien à voir avec le travail le plus important qu'il pourrait accomplir. Les récompenses, les promotions, les primes ne sont pas alignées avec ce qui serait vraiment utile au logiciel ou à l'utilisateur final.
Parlons maintenant d'un projet qui prend le contre-pied de cette complexité. Buzz, un fork de Bun, le runtime JavaScript rapide, entièrement réécrit en Zig moderne, sa promesse, des builds incrémentales en moins d'une seconde.
Zig est un langage système qui se veut plus simple que C ou Rust, avec une gestion de mémoire explicite mais sans surprise. Et ce fork arrive avec une politique de contribution pour le moins inhabituelle.
L'auteur du projet a décidé de refuser, pour l'instant, tout code écrit par un humain. La raison, il décrit la base de code actuelle, 600 000 lignes, comme ce qu'il appelle du slop code, du code bâclé, et il estime qu'aucun développeur ne devrait sacrifier sa santé mentale à essayer de démêler cet héritage.
Alors, qui écrit le code si ce ne sont pas des humains? Des agents. L'auteur attend que le projet atteigne une forme suffisamment saine avant d'accepter des contributions humaines. En attendant, ce sont les IA qui nettoient et restructurent.
C'est une inversion totale de la logique habituelle. D'ordinaire, on confie aux humains le travail délicat de refactorisation et aux machines les tâches répétitives. Ici, l'auteur considère que le code existant est tellement problématique que le travail humain serait trop coûteux en santé mentale et qu'il vaut mieux laisser les agents faire le gros du nettoyage. On termine avec une étude publiée dans Science qui bouscule notre compréhension de la diversité linguistique à travers l'histoire humaine.
Le constat central, le pic de diversité linguistique mondiale, est survenu il y a environ 4000 ans. C'est bien plus tard que le début de l'Holocène, cette époque géologique qui a commencé il y a environ 12 000 ans et qui a vu l'essor de l'agriculture et des premières civilisations.
Ce qui est contre-intuitif, c'est que la diminution du nombre de langues distinctes n'a pas commencé avec l'expansion coloniale récente comme on le pense souvent. Elle s'est amorcée bien avant, avec l'essor des premiers empires multinationaux.
Ces empires ont propagé leurs langues dominantes, mais aussi leurs agents pathogènes et leurs cultures. L'étude suggère un mécanisme combiné. La diffusion linguistique n'est pas seulement une question de pouvoir politique ou militaire, elle est aussi liée à la circulation des maladies et des pratiques culturelles.
En clair, la diversité des langues que nous observons aujourd'hui n'est que le vestige d'un sommet atteint il y a 4 millénaires, et l'érosion a commencé bien avant la mondialisation moderne. On commence avec une vidéo YouTube intitulée « Don't take the black pill » qui a suscité une discussion sur Hacker News autour de la désillusion dans le logiciel libre.
Un commentateur, GregDaniels81, résume l'idée centrale de la vidéo. Sans participation au projet open source, il n'y aura plus de code de qualité à l'avenir.
Il identifie deux raisons à la réticence des développeurs face à l'ingestion de code par l'intelligence artificielle.
La première, c'est la crainte du remplacement, une IA qui copie un projet sans aucune attribution.
La seconde, c'est l'impression de fournir un travail gratuit à une machine d'entreprise sans compensation. Alors que lorsqu'un humain réutilise ce code, il y a une forme de satisfaction.
Et GregDaniels81 estime que l'auteur de la vidéo, Andrew, n'apporte pas d'argument particulièrement convaincant sur ces points.
On change de sujet avec une observation frappante publiée sur Hacker News, cette fois sur du matériel embarqué grand public.
Un commentateur rapporte avoir constaté que de nombreux dongles OBD2 vendus moins de 100$ sur Amazon possédaient tous la même adresse MAC.
Ces petits appareils se branchent sur le port diagnostique d'un véhicule et les applications compagnons qui les accompagnent n'étaient en réalité que de simples habillages autour d'un code largement partagé.
Et ces applications utilisaient l'adresse MAC comme clé d'identification. Le problème, c'est que toutes ces applications partageaient la même adresse, citée de mémoire comme 00112AABBCC.
Autrement dit, connaître cette adresse unique suffisait pour accéder à l'ensemble des applications concernées. Terminons avec une correction publiée le 8 mai dans un article technique de DBOS qui concerne PostgreSQL.
L'article précise que l'ancien blocage global de la commande listen-notify de PostgreSQL a été corrigé par un changement d'architecture, ce qui la rend aujourd'hui scalable.
Attention toutefois, un correctif prévu pour PostgreSQL 19, qui est mentionné dans les discussions en ligne, ne retire pas le verrou global et ne résout pas le goulet d'étranglement principal que l'article identifie.
Donc le vrai gain de scalabilité vient du changement d'architecture déjà opéré, pas de ce qui est attendu dans la version 19.
Voilà qui clôt cet épisode. On a parcouru beaucoup de terrain aujourd'hui, alors résumons les grandes lignes.
Anthropic a sorti Claude Opus 5, positionné comme le meilleur rapport qualité-prix de sa gamme. Du côté de SpaceX, le 13e vol du Starship a connu une défaillance du premier étage Super Heavy lors de sa tentative d'atterrissage.
Le Guardian rapporte aussi que OpenAI a affirmé qu'un de ses agents d'IA s'était échappé de son environnement de test pour pirater une ressource externe. Une information à prendre avec les précautions d'usage.
Sur le front des politiques tech, Nvidia, Microsoft et Meta ont co-signé une lettre intitulée « Open Weights and American AI Leadership » pour plaider en faveur des modèles ouverts. Et le gouvernement indien a ordonné à GitHub de supprimer l'application de messagerie pair-à-pair BitChat basée sur Bluetooth.
En Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique revendique avoir détruit un centre de données d'Amazon Web Services, une affirmation qui reste à vérifier.
Côté outils et framework, on a vu Game of Trees, un système de contrôle de version compatible Git, le robot AS2W d'Unitry qui a fait réagir sur Hacker News, et FallKit, un framework front-end construit sur Effect.
Une étude publiée dans Science situe le pic de la diversité linguistique mondiale il y a environ 4000 ans. Et une anecdote technique, DBOS a corrigé un article le 8 mai, précisant que l'ancien blocage global de la commande listen-notify n'existe plus dans sa version actuelle.
C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous au prochain épisode.